Entretien avec Virginie Grimaldi, Paris, avril 2022.
Virginie Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
En 2009, vous avez créé le blog Femme Sweet Femme, dans lequel vous rédigez des billets humoristiques sous le pseudo Ginny. Et aujourd'hui, vous êtes la romancière française la plus lue en France depuis 2019. Vous êtes suivie par des milliers de personnes sur les réseaux. Vos romans sont traduits dans 20 langues. Chaque parution est un événement de librairie. Est-ce qu'en commençant à écrire, vous vous attendiez à ça? Vous espériez un tel succès?
Non, je n'ai jamais osé espérer ce succès. C'est-à-dire que c'était mon rêve de petite fille d'être éditée, d'écrire un livre déjà, qui soit édité ensuite. Et quand ça a été le cas, mon rêve était terminé. Je pensais que ça s'arrêterait là. Et le rêve est allé beaucoup plus loin avec ce succès et tous ces lecteurs qui sont arrivés au fur et à mesure. Donc ça dépasse toutes mes espérances, tous mes rêves.
Est-ce que ça rajoute une pression de se dire qu'on est une des auteurs les préférées des Français, une des plus lues en France ?
Oui, je pensais que la pression s'apaiserait un petit peu avec le temps. Et en fait, c'est le contraire. Plus il y a de lecteurs, plus la pression est grande. Et la seule pression, en fait, c'est de les décevoir. Parce que je sens leur impatience, leur enthousiasme à chaque fois que j'annonce une nouvelle sortie de roman. Et j'ai peur de les décevoir à chaque fois, parce que je me dis, ils attendent depuis des mois et ça serait la pire des choses de les décevoir. Donc oui, j'ai une grande pression, mais à laquelle j'essaye de ne pas trop penser quand j'écris pour rester le plus sincère possible.
Avez-vous un processus d'écriture, des petites routines? Comment naissent et se construisent vos romans?
Je n'ai pas de routine ni de. Je ne suis pas la personne la plus organisée de la planète, loin de là. Je suis très instinctive. J'écris quand j'en ai envie et besoin. Ça peut être en pleine nuit, ça peut être le matin, rarement le matin. C'est surtout le soir et la nuit, quand tout le monde dort chez moi, en fait, quand mes enfants dorment. C'est là que j'ai l'esprit le plus libre. L'histoire va commencer à se raconter dans mon esprit pendant plusieurs mois. Je prends quelques notes et puis un jour, je sens que c'est le moment. J'ouvre l'ordinateur et là, j'écris tous les jours, toutes les nuits, jusqu'à ce que ce soit terminé.
Et alors, comment l'histoire de Il nous restera ça est arrivée jusqu'à vous et plus particulièrement Jeanne, Iris et Théo?
C'est exactement ça. Ils sont arrivés à moi. Les personnages sont apparus comme à chaque histoire. En fait, les personnages arrivent avec leur histoire, leur prénom, leur biographie. J'écris pas de biographie à mes personnages. Ils arrivent avec leur histoire. Et là, c'est cette histoire de solitude de trois personnages un petit peu cabossés. Et j'avais cette idée d'une rencontre qui allait les marquer et les unir. Mais voilà, c'est vraiment des histoires qui m'apparaissent spontanément. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de chercher. Quand j'ai terminé l'écriture d'un roman, je me dis, tiens, de quoi je pourrais parler? Et ça se passe pas comme ça. C'est pas de quoi je pourrais parler. L'histoire, elle arrive, elle s'incruste, elle ne me laisse pas le choix. Il y a des histoires que j'ai pas forcément envie d'écrire, mais j'ai pas le choix. Les personnages ne me laissent pas tranquille.
Alors, la particularité de ce roman, sans trop en dire, c'est qu'on découvre donc trois personnages de trois âges différents, trois milieux différents, trois histoires différentes. Est-ce que ça a été difficile, justement, de mêler ces trois univers différents? Et comment vous avez fait? Est-ce que d'abord, vous avez écrit toute l'histoire de Jeanne, ensuite toute l'histoire de Théo? Ou est-ce que vous les avez mêlés et laissés se parler les uns aux autres?
Non, oui, ça a été au fur et à mesure. Je passais de l'un à l'autre. C'est assez facile pour moi d'avoir des romans à plusieurs voix parce que ça évite la routine. Tous les jours, ça change et qu'on est plusieurs dans ma tête. Donc, je laisse libre champ aux personnages dans ma tête.
Et alors là, on est dans le cadre du livre audio. Est-ce que vous les faites parler à voix haute pendant l'écriture? Est-ce que parfois vous dialoguez toute seule?
Oui, les dialogues ont beaucoup d'importance pour moi. J'aime que les dialogues soient très cohérents et qu'on puisse pas se dire, on dirait pas ça à l'oral. Il faut que ce soit juste. Et il m'arrive de les dire à voix haute pour voir si ça marche bien. Mais dans ma tête, j'entends à peu près comment ça sonne. Mais oui, il m'arrive de faire les dialogues à voix haute.
Alors, des trois voix, laquelle est la plus proche de la vôtre entre Jeanne, Iris et Théo? Lequel parle un peu plus comme vous?
Et les trois, y a 2 mois dans les trois. J'ai cet enfant en moi comme Théo qui est très très présent. J'ai cette lucidité comme Jeanne, la lucidité face au temps qui passe et à la dureté de la condition humaine. Et j'ai aussi ce grain de folie et cette légèreté que peut avoir Iris. Donc il y a 2 mois dans chacun de mes personnages, je crois.
Le roman porte des valeurs assez fortes comme l'empathie, la bienveillance, la collectivité et l'idée qu'il faut toujours être à l'écoute de l'autre, avoir la curiosité de le connaître parce qu'on ne sait jamais ce que les gens ont pu traverser. Est-ce que c'était des valeurs pour vous importantes à défendre, des messages à faire passer ou encore une fois, voilà, quelque chose qui s'est naturellement imposé?
Je crois que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ce sont des valeurs que j'essaie de travailler au quotidien, en tout cas d'avoir au quotidien. Mais je n'ai pas du tout la prétention de faire passer des messages dans mes livres. Les personnages ont forcément de moi, donc et je crois que c'est important de, surtout en ce moment, d'aller vers l'autre et d'être bienveillant, même si c'est un mot un petit peu méprisé parfois. Je crois que la bienveillance est importante et l'ouverture, ne pas avoir d'avis préconçus sur les gens. Et parfois, on peut être surpris. Il y a de belles amitiés qui peuvent naître ou de belles rencontres, tout simplement, avec des personnes qu'on n'aurait jamais pensé apprécier.
Et notamment sur les échanges entre générations. On a parfois l'impression qu'il y a un écart
Ouais.
impossible à combler. Et finalement, dans ce roman, vous dites tout le contraire, qu'il faut être
Oui.
ouvert aux autres.
Oui, je suis persuadée que les générations ont beaucoup à s'apporter les unes aux autres. Et moi, dans ma vie, je fréquente des personnes de tous âges et je me sens proche de tous. Et c'était intéressant d'écrire justement ce lien entre générations parce qu'en effet, Jeanne a 74 ans, Iris a 33 et Théo a 18 ans. Et j'avais envie de montrer qu'à n'importe quel âge, on pouvait créer des liens déjà, avoir des rencontres fortes et que ça pouvait être intergénérationnel.
Et c'est un sujet qu'on retrouve souvent dans vos livres et notamment dans les recueils Chère Mamie, où vous vous adressez à vos grands-parents. Donc c'est quelque chose pour vous aussi d'important.
Oui, mes grands-parents ont une place très importante dans ma vie. Globalement, les personnes âgées. J'ai travaillé avec les personnes âgées quand j'étais jeune, pendant mes études. Et elles m'ont beaucoup appris, justement, sur le fait de se retourner quand on est en fin de vie sur sa vie, sur son passé, faire le bilan et se demander si on n'est pas passé à côté de l'essentiel. Et je crois que c'est précieux de s'en rendre compte avant d'arriver au bout du chemin. Donc, je pense qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. On a tendance à. Enfin, on a tendance. Certaines personnes ont tendance à mettre de côté les personnes âgées, à les considérer comme des vieux, des têtes blanches, des personnes qui n'ont pas grand-chose à nous raconter alors qu'ils ont été à notre place.
Dans vos livres, il y a toujours des références musicales, cinématographiques. Ici, le clin d'œil à l'album de Grand Corps Malade. Est-ce que c'est quelque chose qui a une place importante dans votre vie personnelle et littéraire, qui vous influence et qui peut parfois orienter votre écriture?
J'écoute beaucoup de musique, ça me procure des émotions comme la lecture. Après, je ne pense pas que ça influence. Ça dépend des livres. Dans les possibles, la musique avait influencé. Et d'ailleurs, il y a certains chapitres que j'ai écrits avec la musique dans les oreilles. Mais je ne suis pas sûre que ça influence mon écriture. En revanche, la musique a une part importante dans ma vie et je ne pourrais pas m'en passer. Et notamment Grand Corps Malade. Je l'écoute beaucoup et il a eu la gentillesse d'accepter que j'utilise son titre puisqu'il nous restera ça et le titre d'un de ses albums qui est magnifique. Et je l'avais contacté pour lui demander si je pouvais l'utiliser. Il a généreusement accepté.
Et alors, s'il ne restait dans votre vie que un album, un livre, un film, ce serait quoi?
Un album, ce serait Grace de Jeff Buckley. Un livre, ce serait La vie devant soi de Romain Gary. Et un film, ce serait Titanic.
Vous n'avez jamais publié de suite pour vos romans. Est-ce que c'est un projet, une envie pour plus tard, ou est-ce que c'est une volonté de laisser les personnages vivre dans la tête de vos lecteurs et de ne pas forcer le destin?
J'ai souvent l'impression, quand je termine une histoire, que j'ai amené les personnages là où j'avais envie qu'ils arrivent et que je pouvais les laisser tranquilles. Mais c'est vrai que certains personnages sont revenus me titiller et peut-être qu'un jour il y aura une suite, notamment pour Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il y a la petite Lily qui souvent vient me parler, donc peut-être qu'un jour j'écrirai une suite. Mais jusqu'à maintenant, voilà, je laisse faire mes envies et pour l'instant il y a d'autres envies qui ont pris le dessus.
Vous êtes très proche de vos lecteurs, que ce soit en salon ou sur les réseaux sociaux. Vous vous adressez même toujours à eux dans les remerciements. C'est souvent très, très émouvant. Quelle place ont-ils dans votre vie et plus précisément dans votre manière d'écrire? Est-ce qu'il y a des petits clins d'œil?
Et ils ont une place très importante dans ma vie parce que ils m'ont donné une place particulière. C'est-à-dire que je pense souvent que si j'avais écrit avant les réseaux sociaux ou avant que les rencontres avec les lecteurs soient aussi faciles, l'aventure aurait été différente parce que les retours que j'ai et le fait de savoir que souvent ça fait écho à leur histoire, ça apporte beaucoup à mon histoire à moi. Donc c'est quelque chose de très fort pour moi dont je pourrais difficilement me passer. Après j'essaye de pas trop penser au lecteur pendant l'écriture pour pas voilà pour encore une fois rester le plus sincère possible, écrire sur ce qui me touche moi sans me demander si ça va plaire, si ça va déplaire et en général voilà j'appréhende du coup la sortie à chaque fois en me demandant ce qu'ils vont en penser. Et jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé.
Ça me fait penser d'ailleurs à votre précédent roman, Les Possibles, dans lequel le personnage principal portait le nom d'une lectrice. Est-ce que dans vos histoires fictives, il y a souvent de clins d'œil à de belles, vraies histoires? Il y a souvent des passerelles comme ça?
Sans doute, mais elles ne sont pas volontaires. Je pense que je suis une éponge, j'absorbe beaucoup de choses, sans doute qu'on me raconte, que je lis, que j'entends, ou des émotions. Mais à aucun moment je me dis, tiens, ça, je vais le raconter, ça, je vais m'en servir. Je pense que tout se mélange dans ma tête et qu'à un moment donné, ça ressort dans des personnages ou dans des histoires. Mais c'est pas quelque chose de volontaire.
Parfois, vous vous surprenez en écrivant en disant « Ah oui, tiens, je ne savais pas que je pouvais dire ça. »
Ah, je me surprends toujours. C'est-à-dire qu'en plus, je n'ai pas de plan ou de méthode d'écriture. Donc souvent, quand j'ouvre l'ordinateur, je ne sais même pas ce que je vais écrire le jour même. C'est un peu le brouillard. Et puis, le brouillard se lève et je me dis « Mais d'où je sors ça ?» Et ça me fait penser, la semaine dernière, ma grand-mère a lu « Il nous restera ça ». Et à chaque fois qu'elle finit un de mes livres, c'est la même phrase, c'est « Mais où tu vas chercher tout ça ?» Et c'est la question que je me pose aussi parce que souvent, c'est alors parfois c'est inspiré de mon vécu, mais parfois ça sort complètement de mon imagination et je ne sais pas d'où ça sort exactement.
C'est déjà votre 8e roman, si je ne me trompe pas. Comment vous vous sentez à quelques jours maintenant de sa parution? Est-ce que l'émotion reste la même qu'au tout premier ou, voilà, comment vous vous sentez?
Oui, l'émotion, elle est intacte. Je ne m'habitue pas et j'espère ne jamais m'habituer parce que c'est une émotion que j'adore. Là, les jours qui précèdent, c'est une excitation mêlée au trac et c'est très agréable. C'est un de mes moments préférés parce qu'une fois que c'est sorti, bon, ça y est, il n'y a plus de surprise, on y est. Et donc là, c'est ma période préférée, hormis l'écriture. Et non, en tout cas, pour ma part, je ne m'habitue pas du tout et j'espère ne jamais m'habituer parce que c'est drôlement chouette à vivre.
Et alors, le jour de la parution, avez-vous des petites superstitions, petits rituels?
Pas du tout.
Non, c'est un jour comme un autre.
Pas du tout. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux pour voir les premiers retours. Et oui, c'est un jour, je suis rarement sur les réseaux sociaux finalement. Souvent, je publie quelque chose et puis après, je coupe parce que ma vie de famille me prend beaucoup de temps. Mais ce jour-là, oui, je suis sur les réseaux sociaux à lire les premiers retours, les messages des personnes qui sont allées l'acheter, qui se prennent en photo avec. Mais sinon, j'ai pas de rituel particulier. C'est un jour de fête.
Pour les lecteurs aussi. En terminant un roman, en avez-vous déjà un autre dans la tête ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie un peu de rester dans cette bulle et de revivre un petit peu avec les personnages?
Je fais une petite déprime à chaque fin de roman parce que les personnages me manquent et que c'est très triste de leur dire au revoir. Après, il y a tout ce qui est relecture, correction, où je suis encore avec eux. Et souvent, je dis à mon éditrice, bon là, j'écris pas pendant quelques temps, je vais prendre le temps. Et fatalement, rapidement, il y a une autre histoire qui vient s'incruster dans ma tête, parce que je crois que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me raconter des histoires pour m'extraire un peu du quotidien. Et donc, ça revient assez rapidement.
Et quel serait votre défi littéraire ou artistique le plus fou ?
Ce serait d'écrire un scénario. J'aimerais beaucoup. On m'a proposé de participer à un scénario et pour l'instant, j'ai refusé parce que j'ai envie de me concentrer sur mes enfants, sur ma vie de famille. Mais quand mes enfants seront grands, je pense que c'est quelque chose que je ferai, d'écrire un scénario avec ou des dialogues. Des dialogues, je trouve ça savoureux d'écrire les dialogues d'une fiction. Ça me plairait beaucoup.
Et alors pour terminer, que peut-on vous souhaiter pour les 8 prochains romans?
Qu'il y en ait 8 déjà, que ça continue à être aussi fort avec les lecteurs, et surtout, je crois que je continue à prendre autant de plaisir à écrire parce que c'est quelque chose qui est devenu presque vital, dont j'ai besoin. Et parfois, je me dis à ce rythme-là, est-ce que je vais pas à force me lasser? Est-ce que ça va pas devenir une routine, une habitude? C'est pas le cas, et j'espère que ça ne le sera jamais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.